l'heure du carillon. Donc aujourd'hui, nous allons parler du protestantisme et tout particulièrement, surtout du luthérianisme. Pourquoi le luthérianisme ? Il y a différentes raisons. Il y a d'une part, c'est un mouvement qui est peut-être minoritaire sur le plan mondial, puisqu'il y a 800 millions de protestants et je crois 75 millions de luthériens. Mais en France, quand même, les luthériens jouent un rôle important, et en particulier dans l'histoire de France. Parce que quand même, comme professeur d'histoire, je sais qu'on a parlé de la Saint-Barthélemy, d'Henri IV, de l'édit de Nantes, de Louis XIV qui a envoyé les protestants aux galères. Enfin, ces guerres de religion qui ont marqué le XVIe siècle, ça a été quelque chose d'important. Mais aussi, les luthériens, ils sont connus pour leur apport théologique. Il y a de grands théologiens, Albert Schweitzer, mais aussi Bultmann, Moltmann, Kuhlmann, Bonhoeffer. Et sur le plan musical, c'est pas un théologien, mais Jean-Sébastien Bach, c'est quand même aussi la mouvance protestante. Donc tout ça est important. Et alors il y a un historien qui est très célèbre, qui s'appelle Lucien Febvre, qui a dit « Luther, l'accoucheur génial de notre monde moderne ». Donc, il a ouvert des tas de portes, Luther, portes à l'individualisme, portes sur la valorisation du travail, sur le mariage d'amour, une sexualité épanouie, l'école obligatoire, ouverte pour les filles, mais il y a aussi quand même... des choses moins bonnes, sur en particulier, il n'a pas fermé la porte au machisme, la femme, mais c'est l'époque, la femme devait être soumise à l'homme, mais alors là où il a été le plus terrible, Luther, c'est sur les Juifs. Là vraiment, il allait jusqu'à recommander de mettre le feu aux synagogues, je dis pas des bêtises. Donc, en France, c'est surtout les réformés qui sont les plus importants, mais en Alsace, à Paris, voilà. Alors, après cette introduction trop longue, je vais laisser la parole aux participants et nous allons commencer par nos amis protestants. Alors, d'abord, le pasteur.
Oui, en effet, pour ce qui est de la France dite de l'intérieur, c'est le mouvement réformé, donc d'inspiration calviniste, Calvin, Genève et Zwingli, Zurich. Zwingli étant contemporain de Luther, et la réforme est partie au départ avec deux pieds. Un en Allemagne avec Luther et la Suisse avec Zwingli, avec des positions pas tout à fait identiques, mais la même idée de départ. Se débarrasser de pas mal de choses que le christianisme médiéval avait ajoutées à la foi apostolique, en termes de sacrements, en termes surtout d'indulgence, c'est-à-dire de manière de gagner le paradis à bon compte, et puis toutes sortes de hiérarchies ecclésiales, ecclésiastiques, qui n'étaient pas forcément efficaces et plutôt même encombrantes pour la vie de l'Église locale. Donc c'est d'abord un retour à l'Évangile, tout simplement, par un moine qui était Luther, docteur de l'Église, moine augustinienne, et par un ancien curé de la cathédrale de Zurich, qui était Zwingli, et plus tard, la génération d'après, par Jean Calvin, qui était lui un docteur en droit.
Je t'arrête, parce qu'on en est aux présentations.
Voilà. Alors, pardonne-moi, mais tu n'as pas dit ton nom, parce que les gens ne te connaissent pas. Excuse-moi, Luc, mais...
Je suis Luc Serrano, donc pasteur de l'Église protestante unie sur le Rouergue, et puis aussi le Aurillac et le Figeac, occasionnellement.
Ah, carrément, tu vas jusqu'à Aurillac.
J'y étais hier.
Oula. Voilà. Alors, docteur.
Oui, Jacques Gilly, donc, je suis membre de l'Église protestante du Rouergue. J'ai adhéré au protestantisme pour différentes raisons, des raisons de rejet et des raisons d'adhésion. Les raisons de rejet, ce sont par exemple de la proclamation de l'Immaculée Conception au beau milieu du XXe siècle, ça. Et puis d'autres choses, le poids de la hiérarchie qui me paraissait excessif. Et les raisons positives d'adhésion, c'est un sentiment de grande liberté. La justification, pas par les actes, mais par la grâce et par l'écriture. Et aussi ce qu'on appelle dans le protestantisme le ministère universel.
Sacerdoce
universel. On pourrait y revenir.
Non, c'est sacerdoce.
Oui, parce que ministère, ça voudrait dire que tout le monde est pasteur. Enfin,
oui,
que
oui.
Non,
oui,
tout le monde est prêtre. Voilà.
Prêtre, prophète et roi.
Prêtre, prophète et roi. Tout le monde est saint et les vivants sont tous saints. Ils sont tous prophètes, tous rois, tous prêtres. Ça veut dire qu'ils font tous médiation entre les hommes et Dieu.
Oui.
Et qu'il n'y a pas de groupe particulier qui a cette fonction. Après, les ministères, il y en a plusieurs, dont celui de pasteur, celui de prédicateur, d'organiste et autres. Ça, c'est différent. Chacun selon ses talents.
Tout à fait.
Bon, Michel Membressus, je suis catholique par le baptême, mais avec une grande bienveillance et une sympathie profonde envers nos amis protestants.
Voilà, Didier, vous connaissez ma voix, puisque j'interviens souvent sur cette antenne. Je suis très content d'être là, mais on se connaît bien avec Luc, et puis on a fait des petits bouts de chemin communs, parce que l'œcuménisme s'est avancé ensemble, d'abord. Et alors, c'est vrai qu'à travers ce que vous dites, tous les deux, on sent un petit peu ces sensibilités, et puis ces points d'accrochage, ces pierres d'achoppement dont on peut parler, parce que... Et puis surtout, moi, je sais pas, j'ai été étonné, Bernard, que tu ne dises pas une chose... C'est que si on parlait aujourd'hui du protestantisme et de Luther, c'est que ça fait 500 ans qu'il a plaqué ces fameuses
les 95 sur la porte de l'église.
C'était,
du
je crois, le 31 octobre, le 31 octobre,
voilà. À la veille de la Toussaint.
À la veille de la Toussaint, 31 octobre 1517. Donc ça fait 500 ans qui a été le départ, enfin le mouvement de départ de la réforme, pour dire les choses un peu simplement, hein. C'est le mouvement de départ. Après, oui.
Alors,
il y a eu des prédécesseurs.
Il y a eu des prédécesseurs, et c'est pour une partie des protestants, il fallait trouver une date. Elle est sans doute la plus intéressante à garder, puisque là, il y a un acte officiel. Quoique, par rapport à Zwingli, même Calvin, Luther n'ait jamais voulu séparer l'Église, au contraire. Puisque les 95 thèses sont juste une demande de disputatio, ce qui ne veut pas dire dispute au sens aujourd'hui, comme on a parfois dans les couples et ailleurs, mais de discussion, de débat théologique qui aurait dû s'entamer avec les théologiens de son temps, donc son Église, puisqu'il jusqu'à ce qu'il soit excommunié, il reste dans l'Église de Rome, l'Église d'Occident. Et donc, ces thèses ne faisaient que réfuter, finalement, les pratiques du culte des reliques et d'autres choses qui, somme toute, aujourd'hui, ont été abandonnées en grande partie, même par l'Église catholique, et qui étaient, en effet, une exagération de vieilles pratiques que l'époque de la fin du Moyen-Âge a mis en avant pour payer, ici, Saint-Pierre, les croisades, et aussi la construction de Saint-Pierre sous Jules II, parce que le point de départ, c'est ça, pour l'Allemagne, et d'autres choses encore. Il fallait de l'argent.
On va en parler.
Ça remplissait les caisses. Voilà.
Oui, alors, je n'ai pas parlé des 500 ans de l'anniversaire du 500 ans de protestantisme, parce que c'était ma première partie sur Luther, parce qu'il faut bien partir de là. Hein, Luther, né en 1483, mort en 1546. Donc, le 16e siècle, nous allons y plonger dedans, pour expliquer pourquoi Luther, qui voulait pas au départ fonder une nouvelle religion, mais qui voulait effectivement se faire entendre du pape et des prédicateurs dominicains qui exagéraient sur les indulgences. Donc, nous allons parler évidemment de Luther, mais avant, on va écouter un premier morceau de Jean-Sébastien Bach, ça s'imposait aujourd'hui. Thank you. Alors, donc, nous sommes sur CFM 90.2 et l'émission d'aujourd'hui porte sur le protestantisme et nous allons commencer par la plongée dans le XVIe siècle, par Luther, parce que c'est quand même le fondateur, même s'il a eu des prédécesseurs, je pense aux Vaudois, je pense à Zwingli, je pense à Jean Hus, surtout, qui, Zwingli, le malheureux, a été crucifié. Hein.
Zwingli, brûlé. Oui, crucifié, ça a été fait avant.
On n'allait pas y revenir.
Donc, Luther, né en 1483, né en Saxe, d'une famille plutôt bourgeoise, il a eu une éducation quand même assez rude. Son père voulait qu'il fasse des études de droit, mais il s'est dirigé finalement vers le couvent des Augustins d'Erfurt. Il est devenu prêtre. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, je crois, de ses premières études, c'est que c'était un angoissé. Il avait peur de la mort, il avait peur du purgatoire, parce qu'à l'époque, le purgatoire, c'était voisin de l'enfer. On pouvait y rester pendant des siècles, hein, je crois.
Plus que ça.
Donc,
tout le temps.
Donc, on avait inventé le purgatoire au Moyen Âge, mais alors donc ça a frappé Luther. Mais il a continué ses études à la faculté de théologie de Wittenberg en Saxe-Anhalt. Et il est devenu docteur en théologie. Donc, il a étudié la Bible, mais toujours avec beaucoup de jeûnes, beaucoup de prières angoissées. Mais enfin, il a quand même, et Luc me reprendra si je dis des bêtises, je crois qu'il a été marqué par saint Augustin et par l'épître romain de saint Paul. C'est ça qu'il a un peu, racinéré, puisque, et alors c'est ça que tu vas nous expliquer, la phrase fondamentale, je crois qu'il faut retenir, c'est « L'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi ». Luc, explique.
Alors en fait, docteur en théologie donnait des cours, et à l'occasion de traductions notamment du Psautier, mais surtout des épîtres aux Romains et aux Galates, il a trouvé en Romains 1,17 cette phrase qui est une citation d'Habacuc, donc ça vient de l'Ancien Testament, « Le juste vivra par la foi ». Donc c'est en 1513, et on nous dit que ça a été le point de départ de sa propre réformation intérieure, parce que du coup, il a compris que tout ce qu'il faisait depuis des années, mais que faisaient des millions de chrétiens en Occident, qui étaient des jeûnes, des formes d'ascèse terribles, voire des coups de fouet dans le dos et d'autres choses, pour pouvoir mortification pour mériter le paradis, ou pour se sentir juste aux yeux de Dieu, ça ne servait à rien. Et que donc, on était déjà sauvés, par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ, c'est ce que dit l'épître aux Galates, l'épître aux Éphésiens, l'épître aux Romains, l'épître aux Corinthiens, et ça a été pour lui une libération, sachant que déjà 2 ans plus tôt, quand il est allé à Rome avec son supérieur, il a été scandalisé, lui, l'Allemand modeste venant d'un pays fin fond de la Germanie, de ce luxe, de ce Saint-Pierre qui était en train d'être construit, de ce pape à cheval qui allait faire la guerre à ses voisins, c'est le pape Jules II.
Donc c'est les abus de l'Église qui sont le premier.
Alors les abus de l'Église ont d'abord marqué, mais ça, après il a une réformation intérieure, ça n'avait pas changé sa pratique. Fidèle à son vœu d'obéissance, il est rentré chez lui faire son travail. Néanmoins, on pense qu'en effet, ce voyage en Italie a été révélateur de ce qu'il a dénoncé, puisque ce qu'il a dénoncé en 1517, c'est ces abus-là de l'Église. L'abus hiérarchique, l'abus financier.
Mais il y avait aussi un clergé qui avait des maîtresses.
Il en parle moins,
Et carrément l'ivrognerie, à cette époque-là.
Oui, mais c'est pas ça qui l'a touché le plus, d'accord avec Luc. Donc il a été ordonné prêtre en 1507, tu vois, et il a commencé donc, après il a été professeur d'écriture sainte, son travail sur les psaumes, son travail sur les épîtres aux Romains, en 1515, il s'y attelle très fort, mais il a été touché aussi par le fait que l'Église, moi je dis ça pas pour justifier quoi que ce soit, mais pour essayer de comprendre, que l'Église vivait comme un prince mondain. Et ça, il l'a pas supporté, avec tous les excès des princes mondains qui guerroyaient, qui avaient de beaux palais, qui commençaient à spolier les gens pour fabriquer leurs beaux palais et tout ça. Voilà. Et ça.
Et il y a l'expression les princes de l'Église.
Voilà, les princes de l'Église. C'est pour ça que je dis les princes mondains. Mais entre nous, le pape François dénonce aujourd'hui le fait qu'il faille pas vivre comme des princes. Je dis ça comme ça, mais pour dire que c'est. Alors, nous, on a du mal aujourd'hui parce que c'était un autre temps, d'autres mœurs, c'était le temps des cours, des palais et tout, mais ce temps des cours, des palais et d'autres mœurs ne pouvait pas aller avec l'annonce de la bonne nouvelle et puis la simplicité de l'évangile et puis cette emprise sur la parole. Voilà, la seule autorité, il le dira toujours, la seule autorité de l'Église ou la première autorité, c'est la parole.
C'est l'écriture.
L'écriture. Quand je dis la parole, l'écriture seule.
L'écriture en tant qu'ancien et nouveau testament. Et il faut bien dire Ancien Testament, parce que la Réforme ne fait pas le distinguo entre les deux livres, sachant que souvent, en effet, la théologie catholique est basée sur le Nouveau, sur Matthieu,
les épîtres
pastorales notamment. Les protestants, surtout s'ils sont réformés, mettent beaucoup d'importance au texte, donnent beaucoup d'importance au texte des prophètes, au texte de la loi, au décalogue, au lévitique. Et chez les évangéliques, c'est encore pire, puisqu'ils mettent leur éthique est tout à fait vétérotestamentaire. Mais il faut dire aussi, alors, ce qui fera le succès de la réforme dans le Nord plutôt que dans le Sud, c'est que dans le Sud, notamment dans la France, il y avait des ordres mendiants, notamment les franciscains, qui atténuaient cet effet, cette vision que le peuple avait d'une Église très riche. Mais il faut savoir que l'Église d'Allemagne, même aujourd'hui, l'Église catholique en Allemagne, reste riche. Que l'Église suisse, même aujourd'hui, reste riche. Que les Églises scandinaves, par rapport aux Églises de France, d'Italie et d'Espagne, sont riches. Que c'est pas Rome qui est riche, c'est pas le Vatican.
Parce que les chrétiens de ces pays, ils...
Parce que ces chrétiens c'était des bourgeois, il y avait beaucoup de marchands parce qu'ils payaient, et que c'était pas le cas de la paysannerie française, et qu'une grande partie de la France qui a pas adhéré à la réforme était aussi une France pauvre, hein, le sud-est, la Provence, et qui au contraire louait la simplicité des frères franciscains, des ordres de Saint-Victor, et de toutes ces communautés qui existent dans le Midi, qui existent en Corse, et dont ils voyaient pas cette explosion de richesse, mais qu'on voyait à Cluny, qu'on voyait aussi dans les grandes villes comme Toulouse, comme Bordeaux et d'ailleurs.
C'est d'ailleurs pourquoi, on va pas en parler beaucoup, mais juste un mot pour dire, il y a eu tant de réformateurs des ordres religieux, que ce soit le Carmel, que ce soit, parce que ils vivaient de plus en plus comme des bourgeois, les bénédictins, les cisterciens, tout ça. Il y a eu plein de réformes pour justement compenser cet effet.
Surtout après le Concile de Trente, quand même.
Oui, d'embourgeoisement, mais je crois que c'est lié tout ça, tu vois, c'est le fait, c'est un peu ces débordements mondains de l'Église qui ont amené ceux qui voulaient vivre de l'Évangile, de la parole, de l'Écriture, à revenir un petit peu et à vouloir réformer les choses.
Il faut en arriver quand même, parce que c'est central dans le tournant de Luther, aux indulgences.
Oui,
alors expliquez-nous les indulgences.
Absolument.
Alors les indulgences, ça date de la papauté en Avignon. Il y a toujours eu, depuis qu'il y a des lieux de pèlerinage, on est ici en terroir, sur le chemin de Saint-Jacques, il y a toujours eu cette possibilité, quand on allait à Saint-Jacques de Compostelle, ou même à Rome, ou à Jérusalem quand c'était possible, d'avoir, de recevoir une lettre, d'avoir quelque chose qui signifie qu'on avait fait le chemin, et de manière spirituelle, en tout cas, il y avait un plus, et on ramenait quelque chose. Mais c'est vrai que la papauté en Avignon qui a structuré l'Église telle qu'on la connaît aujourd'hui, puisqu'avant, en inventant ce qui deviendra un petit peu les différents dicastères de l'Église d'aujourd'hui, avait aussi beaucoup besoin d'argent, à la fois pour reconquérir Rome, pour s'installer en Avignon, et donc on a commencé à réfléchir à ceux qui pouvaient ramener un petit peu d'argent dans les communautés. Alors au début, c'est Rome qui le fait, donc ça vient du pape, mais ce qui se passe à l'époque de Luther, c'est qu'il y a des évêques qui ont un certain nombre de reliques chez eux et qui ont demandé l'autorisation pour eux-mêmes de lever ces indulgences, c'est-à-dire de remettre à ceux qui faisaient un pèlerinage, qui allaient dans tel lieu, une lettre comme quoi, bon, moyennant finances, moyennant certaines choses, ils avaient quelques jours, quelques années de purgatoire en moins qu'ils allaient aller, ou pour les leurs, hein. Des fois, on faisait ça pour aider certains à s'élever plus vite. Quand ça a été abandonné, à l'époque baroque, on a mis en place dans les églises des hôtels des âmes du purgatoire, dont la fonction était la même de manière spirituelle. Les gens allaient prier ou faisaient dire des messes. Et l'idée était toujours la même, aider les défunts, puisque pour l'église catholique, en tout cas, il y a une communication et on continue à avoir une forme de relation, aider les défunts à aller plus vite vers la lumière du Père, vers le paradis. Les protestants qui croient que tout s'arrête, qu'en fait on va directement au Père, ils ont bien sûr pas ce type de préoccupation. Mais en effet, Luther l'avait aussi. Et lui,
vous croyez pas au purgatoire, les protestants?
Ah ben non, c'est une invention. Les historiens ont montré. Le purgatoire, c'est une invention au début géniale de l'Église, dans la mesure où l'Antiquité tardive n'a laissé que deux possibilités aux croyants, l'enfer et le paradis. Sachant que l'enfer c'est au pluriel, c'est les enfers, c'est le séjour des morts, et le paradis c'est mentionné deux ou trois fois, notamment quand avec le bon larron. Donc qu'est-ce qu'on fait au milieu? Si on n'est pas juste, on se voit pas
oui,
trop
parce
aller.
Qu'on voilà. Peut pas être ou tout blanc et ou tout
oui,
noir.
Voilà. Alors,
on est
donc,
gris tous.
On est tous gris. Alors le purgatorium c'est quand même une idée où l'âme était destinée quand même à aller au paradis. Mais comme elle n'y était pas prête de son vivant, on considérait qu'elle avait encore un chemin à parcourir dans l'au-delà, et que ce chemin pouvait être aidé par la prière des vivants. Alors ça, c'est pas une mauvaise chose en soi de prier pour les uns ou les autres, même pour les morts. Mais là où ça devient un peu plus compliqué, c'est quand à la prière on rajoute
ce monnaie.
On tarifie, voilà. on tarifie. Voilà. Moi, le problème, tu vois, je dirais un peu comme Luc. Je dis que finalement, c'est vrai, dans cette situation de gris, de subtilité de gris, on a tous besoin d'être purifiés pour rencontrer Dieu. Mais alors, que l'on mette ça dans un lieu, dans un temps, avec des échéances, ça ne peut pas exister. Ce qui est important, c'est mon désir de purification pour être le plus créé à l'image comme à la ressemblance. Soyez saints comme moi je suis saint, mais je sais que j'ai encore du chemin à faire.
Parce qu'à la limite, personne n'est digne d'entrer au paradis.
Voilà, exactement. Donc, si tu veux, et alors,
c'est
de quelle
parfaits,
manière
mais il n'y en a pas beaucoup.
Il n'y en a pas. De quelle manière se vivra cette purification? Eh bien, par la passion résurrection du Christ.
Voilà. Oui, oui.
Enfin, pour moi. Puis, quand on a dit ça, alors, je récuse pas le fait qu'il faille se purifier ou être purifié par Dieu. Mais qu'on le quantifie, qu'on le mesure, qu'on le mette dans un lieu et dans un temps, ça, j'avoue que ça me touche pas beaucoup.
Et alors le malheureux Luther, parce qu'il nous faut avancer, quand il a fait paraître ses 95 thèses, l'archevêque de Mayence les a fait suivre au Vatican, et on lui a dit ou bien vous vous rétractez. Parce que c'est le pape qui a la vérité. Et, ou bien vous êtes excommunié.
Voilà, vous sortez de la communion de l'Église.
Mmh. Et donc il a dit, moi je peux pas me rétracter, c'est ça l'individualisme protestant, parce que ça irait contre ma conscience.
Mmh. Hein? Oh. Il n'y a pas cette notion de conscience ni chez Luther, elle sera plus réformée en fait et plus tardive. Non, en fait, lui il va dire c'est contre l'Écriture. Ce qu'il dit, Luther dit, mais prouvez-moi que ce que je dis est faux. Si vous pouvez pas récuser mon questionnement, c'est que j'ai raison. Si j'ai raison, en gros, même si je suis tout seul, c'est à vous déjà en débattre et ensuite à changer vos pratiques. Alors c'est sûr que un contre le monde, ça fonctionne pas. C'est l'appui des princes qui l'ont déjà sauvé du bûcher sans doute et qui lui ont permis en tout cas de continuer. Sachant que ces princes ont choisi pour certains, notamment son prince à lui, son prince électeur de Saxe, ont choisi sa cause pour des raisons politiques.
Exactement.
Charles Quint venant d'être élu, Charles Quint représentant l'Espagne et les Flandres, hein, puisque c'est pas un Allemand. Les princes allemands qui auraient voulu une couronne impériale pour un Allemand, la France aurait voulu pour elle, puisque François Ier était candidat et Henri VIII aussi. Donc finalement, une partie des princes allemands, un tiers au début, sont dit voilà, on a maintenant un prédicateur voilà. va nous donner, qui va donner consistance à nos, ben là on est encore dans du politique, hein, à nos désirs d'émancipation de l'Empire, et on va négocier avec l'empereur notre liberté à nous, grâce à cette particularité. Et les princes électeurs qui ont choisi Luther sont ceux, en effet, qui auraient défendu un empire allemand. Donc il y a du nationalisme aussi derrière. C'est pour ça que Luther, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et même après, pour l'Allemagne de l'Est, a toujours été une figure du nationalisme allemand. Ça n'a rien à voir avec lui, c'est pas la face sombre de Luther, c'est la face sombre de la récupération de Luther.
Parce que Charles Quint l'avait banni. Il aurait pu le condamner, il l'aurait condamné à mort, mais il a choisi de pas le condamner à mort, il l'a banni. Et après, Luther a été le porte-parole, enfin, a été la caution des princes, des princes allemands.
Voilà. Comme ça, parce que lui,
la caution. Alors, il n'a pas été le porte-parole, la caution.
Oui, on a insisté sur les abus de l'Église, sur des raisons politiques, mais il y a aussi d'autres raisons du succès de Luther, parce que, quand même, très rapidement, toute l'Allemagne, des princes, mais aussi la population l'a suivi quand il a traversé l'Allemagne. Et donc, il faut revenir sur les raisons du succès. Il y en a une autre quand même qui est importante, c'est qu'il y avait, de la part des laïcs, une attente de réforme. Il y avait, on voulait passer d'une religion qui regroupait beaucoup de monde, mais qui n'était pas assez intériorisé, individualisé. Il y avait cette attente-là, poussée peut-être par le courant de la Renaissance, le courant humaniste, où on était revenu à l'écriture sacrée, à l'exégèse, et donc les laïcs, ils voulaient cette réforme. Mais cette réforme, tous les deux siècles, il y en avait une, pratiquement. C'était, bon, il y a eu la réforme grégorienne 11e, puis après il y a eu, je sais plus quoi.
Mais elle touchait que les clercs. Elle touchait que les clercs. En fait, chaque fois qu'il y a une réforme demandée par des groupes de laïcs pour avoir une partie de, en tout cas, pouvoir remettre la main sur l'écriture, ne serait-ce que dans la langue vernaculaire, leur langue natale, ou pouvoir avoir des prieurs ou des communautés de laïcs avec 100 qui est forcément un clerc avec, ça a été soit ça finit en hérésie et condamné par l'Église comme pour les cathares et les vaudois, ou pareil pour Jean Hus qui ne proposait pas autre chose que un système plus égalitaire où finalement des laïcs aidés par des théologiens pouvaient aussi trouver un chemin, créer des communautés et traduire dans le langage de chacun les écritures et pas le laisser dans cette langue qui était le latin, qui n'est que la langue des clercs.
Oui, ça, je voulais le dire. Toi, la langue des clercs, c'est pas la langue de l'Église, contrairement à ce que les gens disent, c'est la langue des clercs. Et à partir de là,
L'imprimerie qui a permis la diffusion des langues vernaculaires.
De la Bible en langue vernaculaire, c'est sûr.
Luther a eu un rôle fondamental.
Tout à fait.
Alors disons que Luther a la chance de et pareil pour les réformateurs suisses, de lancer leur mouvement dans l'endroit où se situe la majorité des imprimeries. C'est plus comme ça qu'il faut le dire, parce que l'imprimerie a quelques décennies d'avance sur la réforme, mais il se trouve que l'imprimerie est très représentée dans la vallée rhénane, en Suisse, et pour la France, c'est Lyon. C'est surtout Lyon. Or, c'est Lyon, parce que c'est pas loin de la Suisse et du Rhin, et que ces imprimeurs vont très rapidement, parce que c'est des gens modernes, des gens lettrés, vont à 90%, ne serait-ce que pour les Français, suivre les idées de la réforme. Et donc, très rapidement, c'est sûr que les petits libelles de Luther, les 95 thèses, les grands écrits réformateurs vont être diffusés. Et c'est ce qui va faire le succès au-delà de la Saxe, au-delà de Zurich et Genève après pour les Suisses, et
dans toute l'Europe occidentale.
Dans toute l'Europe, puisque toute la Scandinavie, par exemple, va très rapidement devenir protestante. En fait, à l'époque, ils disent évangélique, c'est le mouvement évangélique. Mais en France, il y a eu un mouvement qui avait commencé bien avant Luther, parce que là, quand on parle de lien avec l'humanisme, c'est pas avec Luther. Luther n'était pas humaniste, il était même anti-humaniste. Il s'est battu avec Erasme dans des disputes. Il n'était pas d'accord avec Erasme. Les humanistes avaient une conception de la grâce beaucoup plus universaliste et qui était pas augustinienne justement, qui laissait à Dieu le soin de sauver un peu tout le monde, et c'est un peu le point de vue d'Érasme, et Luther pour ce côté-là était très...
Oui. Mais il y a aussi quelque chose qui a marqué, c'est la peur de la mort, parce que ça venait après la guerre de Cent Ans, après la peste noire, et après le grand schisme aussi. Donc il se disait, mais où on va? Il y a deux ou trois papes, à un moment donné, à Avignon, à Rome et tout ça. Je crois que les gens se disaient, mais est-ce qu'on va vers la fin du monde?
Une impression de fin du monde, oui.
Hein? Il y avait cette idée d'apocalypse.
Enfin, on pourrait écouter un brin de musique, oui, mais avant, juste un mot. L'Église catholique, qui était dominante, quand même, n'a jamais reconnu ni la sainteté de Jules II, ni de Léon X. Alors, quelque part, ça peut nous rassurer. Voilà, on écoute un morceau de musique, un psaume, le psaume 8, qui parle de l'homme un peu moindre qu'un dieu et à qui Dieu a tout donné. Voilà.
Alors, nous sommes sur CFM 90.2 et nous parlons, alors d'abord de Luther, qui est le fondateur pratiquement, et puis des indulgences, mais nous en arrivons maintenant aux conséquences des paroles de Luther, c'est-à-dire que ça va entraîner une division en Europe et des guerres de religion. Alors si les pays scandinaves, la Hollande, la Suisse, les États allemands, ça s'est quand même pas trop mal passé, encore que, je
lis...
Il y a
30 ans, 10 ans après, 100 ans après.
Après, oui, après la guerre. Après. Mais lui, il dit, de même qu'on décapite un paysan révolté, il faut décapiter un chevalier, un comte, un prince désobéissant, que la loi soit la même pour tous. Donc j'imagine qu'il y a eu déjà des violences très importantes et que Luther n'était pas un pacifiste.
Si, Luther est un pacifiste. En fait, Luther reste un moine. Et la seule fois où on l'a amené à faire de la politique contre son gré, et c'est lors de la révolte des paysans en 1525, où un prédicateur anabaptiste, alors les anabaptistes sont les ancêtres des évangéliques d'aujourd'hui, qui sont quand même... pratiquement les trois quarts, voire plus des protestants, des 800 millions de protestants. Et donc eux qui baptisaient pas les petits-enfants, qui en plus attendaient la fin des temps, qui pensaient que le Christ allait revenir. Et il fallait aider à cela en abattant l'ordre social, donc les princes. Donc il y a une révolte menée par un prêcheur évangélique de l'époque. Et Luther a eu en abomination le fait qu'on utilise les Écritures pour pouvoir tuer au nom d'un royaume à mettre en place ici et maintenant. Donc on est dans une espèce de djihadisme avant l'heure, en fait. C'est toujours le même débat. Et les princes allemands sont venus lui dire, mais qu'est-ce qu'on fait ? Il a dit, il faut écraser cette révolte. Parce que théologiquement, c'est pire qu'une simple révolte de paysans, puisque là, on y mêle Dieu dedans, qui n'a jamais dit de tuer les gens pour instaurer le royaume de Dieu sur terre. Donc, c'est son seul acte. En même temps, il dit bien aux princes qu'ils doivent faire des efforts, car ils sont en partie la cause de ça. Et il invite les princes à être plus justes dans leur gestion. Néanmoins, il a donné quitus à ça. Mais suite à ça, Luther n'est plus jamais intervenu en politique. Et les dernières années de sa vie, les 20 dernières années de sa vie, il les a passées à écrire des catéchismes, des louanges à Marie, des cantiques.
Et également à prêcher contre les synagogues et même à demander à exiler les juifs et à détruire les écoles et les synagogues.
Comme Luc. Tous les religieux de son temps, hormis les réformés en Suisse.
Oui, oui.
Comme tous les chrétiens de leur temps, et ça tient à une théologie qui était commune là pour le coup au courant luthérien et catholique et orthodoxe, c'est-à-dire hors de l'Église, point de salut, que le baptême faisait le chrétien mais aussi le sauvé, et qu'il ne pouvait y avoir d'autres personnes sauvées en dehors de l'Église et du baptême. Et à Genève, chez Calvin et notamment dans le courant suisse, on considère que seul Dieu est Dieu et qu'à lui seul est la gloire, lui seul décide qui est sauvé, et que si ça lui plaît de sauver les juifs et les musulmans, c'est de son bon vouloir. Autrement dit, les juifs et les musulmans rentrent dans le salut, et l'Église invisible, elle est au-delà des frontières de l'Église. Et c'est vrai que c'est l'époque contemporaine, et notamment le Troisième Reich, qui a ressorti quelques paroles de Luther, mais qui, hors contexte, ne veulent rien dire. Parce que tous les religieux de ce temps, à part quelques saints, et encore une fois, le courant réformé du protestantisme, auraient dit les mêmes choses. Hein, les Juifs étaient à l'époque le peuple qui a tué déicide. Dieu déicide.
Voilà, déicide.
Ça l'a été ça. Prêché jusque il y a pas longtemps.
Mais même chez nous, on disait voilà. Encore l'intention de prière, tu oui. sais, le vendredi saint.
Avant Vatican II,
les juifs voilà. perfides. Oui, ouais, voilà. Perfides, ouais. Et déicide et bah, tout oui. ça. Tu vois, on peut dire que.
Oui. Bon, alors, Michel, on t'a pas entendu beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses de toutes ces violences qui ont marqué les. Parce que quand même, il y a eu la guerre des paysans, c'est sûr, mais il y a eu aussi en France de véritables pogroms. Quand François Ier, après l'affaire des placards, a dénoncé oui. Les protestants, Montluc et De Guise et tout ça, enfin, au nom de l'amour de Dieu, on s'est embroché joyeusement.
Des deux côtés.
Des deux côtés, d'accord.
Alors je me demande, moi, toujours, mais je ne veux pas récupérer quoi que ce soit, si c'est d'abord un fondement religieux ou un fondement politique ou de pouvoir politique, de pouvoir entre les grands qui voulaient récupérer la religion à leur service. Je me demande toujours s'il n'y a pas de ça derrière. Et je suis sûr qu'il y en a un brin.
Il y en a comme le djihad aujourd'hui.
Il y en a voilà. plus qu'un brin. Oui, le djihad, c'est plus compliqué.
Oui, oui.
Il y a un vrai fondement religieux et c'est du fanatisme religieux.
Oui.
Mais pour ce qui est de la France notamment et de la guerre de 30 ans après en Allemagne, le fondement est uniquement politique.
Ouais, ouais.
La sœur de François Ier, Marguerite d'Angoulême, est proche du protestantisme. Il y a des évêques qui étaient proches. Et donc, peut-être, François Ier se serait vu comme son cousin Henri VIII, gallican, c'est-à-dire chef d'une église gallicane, avec un fond protestant, une forme catholique, comme en Angleterre. Le problème, c'est les placards. C'est-à-dire, c'est un crime de lèse-majesté. Donc, les ultras qui ont fait ça, qui étaient le courant le plus ultra de l'évangélisme français, on est toujours dépassé par nos ultras, y compris en politique, ont fait en sorte que c'était tout ou rien. Eh ben, ça était rien. Parce que François Ier, il n'a pas réprimé une confession, il a réprimé quelque chose qui était un crime de lèse-majesté. Lui a fait ça. Après, il y a eu des paix, rappelez-vous, même du temps de Catherine de Médicis, il y a eu plusieurs tentatives de paix. Catherine n'était pas forcément, avait pas forcément envie de tous les tuer. Il y avait énormément de nobles qui étaient protestants dans son entourage. C'est chaque fois les partis ultra, les Guises notamment, qui ont attisé avec des rois faibles une guerre qui n'avait pas de sens, si ce n'est de mettre soit au pouvoir la partie de la noblesse qui était protestante, les Condé, Anne de Montmorency et quelques autres, soit au pouvoir la partie des Guises, c'est-à-dire les ultra-catholiques lorrains, qui eux, voilà, et le roi étant au milieu, et juste, mais on sait qu'Henri III a essayé d'arrêter le conflit, et qu'il faudra qu'un roi soit, il faudra un roi aussi pour l'arrêter avec l'édit de Nantes. En Allemagne, c'est pareil, c'est un conflit entre une partie des luthériens et des calvinistes contre les catholiques, parfois des luthériens et des catholiques contre les calvinistes, et parfois des calvinistes et des catholiques contre les luthériens. Et ça a duré 30 ans, et ça a détruit l'Allemagne.
Arrêtons sur la violence, parce qu'il y a d'autres aspects. Il est passé quand même d'une organisation de petites communautés en une église alternative. Parce que les couvents se vident, les prêtres se marient, il se marie lui-même avec une nonne.
Il a six enfants,
la liturgie est réorganisée, le baptême des petits-enfants est prôné par certains. Donc, il y a des désaccords sur le pape, sur la Vierge, sur l'Eucharistie.
Sur les ministres ordonnés.
Oui. Donc, progressivement se met en place une nouvelle église, carrément différente de l'Église catholique. Même quand elle sera rénovée par le Concile de Trente, il y aura visiblement les chrétiens se divisent. Qu'est-ce que tu en penses, Michel? On t'en a pas beaucoup entendu.
Comme les choses que vous dites sont très intéressantes, je n'interviens pas, d'autant que vous êtes plus à même de dire ce qui est en train d'être énoncé. Bon, non, lorsque l'on voit les religions qui ont devoir et autorité pour enseigner l'amour, lorsque l'intolérance est pratiquée, on en arrive à des excès qui sont tout à fait inconcevables. Et une question me vient par rapport à ce qui vient d'être dit. Quelles sont ces différences que l'on peut constater? Par exemple, on l'entend souvent, cela. Je pense que les auditeurs aimeraient bien avoir la réponse. Quelle différence y a-t-il entre ce que prône le catholicisme et ce que prêchent les protestants? Et parmi les protestants, j'aimerais savoir quelles sont les différences qu'il y a entre vous. On a parlé de... Vous êtes un nombre 800 millions, dont 75 millions de
luthériens.
Oui, je t'entendrai pas me tromper dans les chiffres, mais je crois que ce serait bien d'expliquer tout cela en quelques
Alors
mots.
On va y arriver, mais avant on va écouter un autre morceau de Bach et on parlera à la fois de ce qui nous différencie, mais aussi de ce qui nous rapproche voilà, et de ce mouvement œcuménique qui se développe quand même et qui nous rassure.
Ce qui nous est quand même commun.
Et qui date des années 50.
Et qui date des années 50, oui.
Oui, 1950.
Thank you.
Donc, nous passons de l'histoire à la situation actuelle, surtout comme on le disait après 1950 où il y a eu ce rapprochement, mais encore aujourd'hui, et c'est là-dessus qu'on voudrait y voir plus clair, on n'est pas d'accord sur la Vierge, sur le pape, sur l'Eucharistie, sur les sacrements, sur le divorce, le remariage, ça fait encore beaucoup de choses quand même.
Et les ministères.
Et les ministères.
C'est même la base du problème.
Voilà, c'est ça, oui, à mon avis.
Alors, c'est la base du problème. En fait, bon, déjà pour faire un schéma, il y a à peu près 2 milliards 200 millions de chrétiens, la moitié sont catholiques. Et dans la moitié qui reste, il y a 800 millions de protestants, les autres, ce sont les orthodoxes. Dans ces 800 millions de protestants, plus de 500 millions sont des églises évangéliques, c'est-à-dire les descendants de manière directe ou indirecte de ces anabaptistes que l'on a persécutés partout, y compris chez les protestants, sachant qu'on les a renvoyés aux États-Unis, ils ont fondé l'Amérique, hein, et les Anglais n'en voulaient pas. Mayflower était rempli de puritains. Et donc, à part eux, bon, la différence déjà entre les anabaptistes et les autres protestants, c'est qu'eux ne baptisent pas les petits-enfants, considèrent que pour être chrétien, il faut le demander, qu'il faut en faire, il faut confesser sa foi. Et aujourd'hui, ils se disent plus anabaptistes, ils se disent baptistes, donc qui baptisent vraiment, puisqu'ils considèrent que nos baptêmes d'enfants ne sont pas valables, pas valides, et que si l'un de nous baptisés enfants vient dans leur église, ils vont commencer par nous rebaptiser. Alors eux, ils baptisent et nous, on considère que c'est un rebaptême. Bon, on n'est pas d'accord sur ça. Ensuite, ils ont simplifié encore plus que nous l'usage ou la pratique ecclésiale. Des fois, ils n'ont même pas de pasteur, c'est juste des prêcheurs,
prophètes. Que laïc et prêtre, il n'y a plus la différence ils marquée ont, que ils qu'on ont, a dans
ils
le
ont
catholicisme.
Encore moins que nous, protestants, ils ont une différence encore plus marquée que nous, qui avons des pasteurs formés, qui, si c'est une église luthérienne, a encore des évêques, si c'est des méthodistes, ont encore des évêques, et des anglicans, non seulement des évêques, mais une forme qui est catholique dans la liturgie, dans...
Oui, c'est
et y compris dans des ordres de l'église que même l'église catholique n'a plus. Voilà.
Et bon. Les pasteurs sont passés par de la théologie pendant plusieurs années. Alors, comme les prêtres et les évêques dans le catholicisme.
Alors, pour les pasteurs, la moitié des protestants qui ont des pasteurs, y compris méthodistes, baptistes, luthéraux, réformés, les réformés, c'est 80 millions, les anglicans à peu près autant. Il y a tous une formation d'au moins 5 ans et on a un niveau universitaire. C'est différent du séminaire où, pendant très longtemps, c'était surtout plus basé sur la pratique. Nous faisons de la théologie, nous apprenons les langues mortes, et ensuite on fait des stages qui feront de nous des pasteurs ou pas. Les différences qui restent et resteront sans doute, puisqu'elles sont liées à notre choix de revenir aux Écritures seules, c'est que le protestantisme, quel qu'il soit, a gommé tout ce que l'Église du Moyen-Âge avait rajouté en termes de sacrements, donc il reste plus que le baptême et la scène. Deux sur sept, parce que le Christ a dit « Faites ceci en mémoire de moi », ou allez de par les nations, baptisez-les. Il n'a pas dit, vous les marierez, vous ordonnerez des prêtres, etc. Bon, ça c'est déjà une chose. La place de Marie et des saints, tout simplement parce que Marie, les apôtres, les prophètes, pour nous, sont tous des humains, ayant vécu, étant morts, et étant avec nous, des saints, vivants ou morts, et qui n'ont pas ne peuvent pas être des intermédiaires entre le croyant et Dieu.
La virginité de la Vierge.
La virginité de la Vierge, elle n'est valable qu'au début, c'est-à-dire on la prend au sens littéral du terme, elle était vierge quand elle a eu Jésus, qui n'était pas le fils de son mari Joseph. Point barre. À partir de là, elle n'est pas vierge de tout péché, donc pas d'Immaculée Conception, comme l'a dit Jacques, puisque tout humain a en lui cette marque d'origine, ce qu'on appelle le péché originel, ce que saint Augustin et que Luther n'a pas récusé. Donc Marie comme les autres. Et nous croyons, bien sûr, que comme Joseph, son mari, qui l'a accueilli néanmoins, elle a eu des enfants, qui sont les frères, les demi-frères, demi-sœurs, et qui sont cités aussi. Dans
certains cathos l'admettent, ça, non? Voilà. Qu'elle n'ait pas été toujours vierge.
Oui, oui. Non, mais alors, si tu veux, bon, on va pas rentrer parce que chacun a ses sensibilités, là, et puis on touche plus à des questions après de sensibilité que d'intelligence de la foi. Alors c'est un peu grave parce que c'est difficile et puis on se heurte à des situations où les gens ne comprennent pas trop et c'est pour ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai qu'aussi, il y a il y a toujours le balancier. C'est-à-dire donc la contre-réforme, comme tu le disais tout à l'heure, je crois pendant la pause, la contre-réforme a permis à l'Église de mettre en place des structures, et parce qu'elle se sentait bousculée, titillée, comme la formation des prêtres, comme tout un tas de choses et tout ça, ça c'est très important, comme le sacrement de pénitence qui n'était plus un truc public avec la démarche de pèlerinage, l'indulgence au bout et le machin et tout ça. Donc tout ça, ça a changé un petit peu à ce moment-là. Et puis c'est vrai que je dis aussi, à chaque fois que les protestants s'arc-boutaient sur une opposition, les catholiques s'arc-boutaient sur une opposition totalement opposée. Ça a été un peu le cas sur la Vierge, ça a été un peu le cas pour l'Immaculée Conception et des choses comme ça. Et d'ailleurs, l'Immaculée Conception, c'est un dogme très tardif dans l'Église catholique.
C'est Pie XII.
Très tardif, tout oui, oui, c'est 1958, voilà. Je veux dire, par exemple, la Vierge, tu vois, mais c'est ça où il faut dire, il y a quatre dogmes. Donc, dogme, c'est les lois dans lesquelles tu dis, je confesse ça, je suis catholique. Quatre dogmes de la Vierge. Il y en a deux qui datent des 3e et 4e siècles. Mère de Dieu est toujours Vierge, ce que tu disais là. Mmh. Et puis, il y en a deux qui date beaucoup plus, c'est l'Assomption. Alors, et puis l'Assomption et l'Immaculée Conception.
L'Immaculée Conception, c'est
1854, voilà. Et puis c'est l'Assomption, je me suis trompé.
Et 1950 pour l'Assomption. Donc,
voilà,
voilà.
Oui.
Où on a fait de Marie comme Jésus, qu'elle est élevée au ciel. Voilà, il a fallu...
Oui, alors voilà, tu vois, c'est des choses comme ça qui sont heurtées, mais tout ça n'enlève pas une... Je veux dire, c'est une autre vision des choses, et une autre, mais oui. Ça n'enlève rien sur l'essentiel.
Il y a une chose que je ne comprends pas, quand même, chez les protestants, c'est que l'écriture est fondamentale, je suis tout à fait d'accord. Mais que on tienne compte de la tradition, c'est-à-dire de ce qu'a apporté les pères de l'Église, les grands spirituels, les grands théologiens du Moyen-Âge et tout ça, que ça, on mette une croix dessus pour dire « sola scriptura » point, parce qu'il y a toujours, en fonction du temps, des interprétations multiples et différentes en fonction de la société. Moi, ça ne me gêne pas qu'on tienne compte aussi des apports de l'histoire.
Bon, alors, je crois qu'on en parlait du temps. Le temps presse. On va essayer de voir qu'est-ce qui nous unit.
Oh ben, comme on le dit tous, ce qui nous unit est tellement plus important que ce qui nous divise. Ce qui nous unit, c'est que Christ est ressuscité pour nous introduire à la vie de Dieu, point final. Et alors là, on est tous d'accord là-dessus. Et quand on parle des sacrements, moi souvent je dis, mais je veux choquer personne, il n'y a qu'un sacrement. C'est la mort-résurrection du Christ. Et après, on le décline de façon différente dans notre vie. Mais il n'y a qu'un sacrement, c'est le mystère pascal.
C'est pour ça que la foi est première. Voilà. L'armée du salut, par exemple, qui est une composante du protestantisme minoritaire, mais quand même plutôt dans les œuvres, n'a pas de sacrement et n'a pas de clergé. Ce sont des officiers, vous savez. Donc, de fait, pour eux, la foi est première et même, il y a même que ça. Et ce qui veut dire que moi, j'ai eu des fidèles qui étaient même pas baptisés. Ça les empêche pas de communier, par exemple, puisqu'on dit pas que le baptême aujourd'hui, en tout cas dans notre église, est forcément nécessaire pour aller à la communion. La confession de foi, elle se fait de l'un à l'autre quand on reçoit de son frère une confession, une charge, et on peut l'en délivrer par une prière. Et je crois qu'en fait, pour beaucoup de choses, dans la pratique ecclésiale, un prêtre, un pasteur, font la même chose. Dans l'écoute, nous faisons la même chose.
Luc, je t'arrête parce qu'il ne reste que quelques secondes. Simplement, je voudrais dire qu'à Villefranche, il y a des réunions entre les protestants et les catholiques.
Et les évangéliques.
Qu'on s'entend, je crois, finalement, on se rejoint très souvent. Oui. Et donc,
Et
les évangéliques aussi. Il y a quelques difficultés plus grandes avec eux parce que c'est...
Là, pour le coup, le sens est littéral, elle est littérale.
mais donc, on va dans la diversité, mais on va dans une diversité qui est intéressante, me semble-t-il, on va progressivement vers l'unité comme le souhaitait le Christ.
Alors, on est dans une diversité réconciliée, mais qui restera une diversité parce que il y a besoin d'avoir des demeures différentes, puisqu'il y a des sensibilités différentes et qu'elles sont la base de nos personnalités. Et je crois que
l'unité n'est jamais l'uniformité. Voilà. Restons différents et cherchons la vérité ensemble parce que la vérité vraie avec un grand V n'est qu'en Dieu.
Nous nous arrêtons là et la prochaine mission portera sur Noël, parce que nous arrivons à ce moment-là à quand même, c'est moins important que Pâques pour les cathos, mais c'est quand même quelque chose d'essentiel.
Mais l'incarnation, on est d'accord.
Merci à nos invités, le pasteur Luc Serrano, monsieur Gilly, et puis Didier Grangeau, qui comme d'habitude anime très bien, sans parler bien sûr de Bernard Lauriac, qui était aux manettes aujourd'hui.
Voilà, donc effectivement, j'ai beaucoup lu avant de me lancer dans cette émission, pour pas trop dire de bêtises. Au revoir et merci pour CFM.